France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le dimanche 17 novembre 1912, un jeune homme de 29 ans fait la grasse matinée chez ses parents à Prague. En l'attente d'une lettre de quelqu'un qui fait chavirer son cœur, il se tourne et se retourne dans son lit, rempli d'angoisse. Il pense au roman qu'il est en train d'écrire, Le Disparu, et dont il a l'impression qu'il ne verra jamais le bout. Il se sent désespéré, comme rempli d'une angoisse existentielle dont il n'arrivera jamais à se débarrasser. Le soir même, après avoir reçu et répondu à la lettre tant attendue, il commence la rédaction d'un court roman qui aura une influence immense sur la littérature du XXe siècle, La Métamorphose. Rien de moins étonnant que s'imaginer le jeune Franz Kafka donner vie à Gregor Samsa, en prenant appui sur le réel qui l'entoure. Sa chambre est la même que celle de son protagoniste, et sa métamorphose n'est qu'une illustration symbolique d'une impossible difficulté à être. Dans ce premier de 9 épisodes de la journée Franz Kafka d'Isabelle Huel, Jacques Taroni et Jean Dave, diffusé pour la première fois le 17 septembre 1983, c'est justement ce rapport douloureux à l'existence qu'évoquent Philippe Lacoulabarthe, David Flusser et Louis-René Desforêts. L'occasion de se rappeler l'importance immense de l'œuvre de Kafka pour le XXe siècle et d'entendre certains textes peut-être moins connus. L'angoisse ontologique et fondatrice de Kafka, donc, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
Il y a un siècle, le 3 juillet 1883, naissait à Prague Franz Kafka. Tout dans cette ville, familièrement maléfique, qu'il vit du reste comme une fatalité, semble créer une distance infranchissable, voire absurde, entre des hommes apparemment liés par le même genre de vie. Au milieu des Tchèques, des Juifs et des Allemands de Bohême, rassemblés là depuis des siècles, Franz Kafka, comme intellectuel juif, se voit placé dans une situation qui l'oblige, jour après jour, à justifier son existence, comme hôte d'un pays qui n'est que légalement le sien et comme invité de la langue allemande. La préoccupation du salut devient alors fondamentale, d'autant plus forte qu'elle est sans espoir, d'autant plus désespérée qu'elle est sans compromis, d'autant plus absolue qu'elle passe avec régularité par la littérature. D'où ces trois impossibilités. L'impossibilité de ne pas écrire, l'impossibilité d'écrire en allemand, l'impossibilité d'écrire dans une autre langue, à quoi Kafka ajoute cette quatrième impossibilité, l'impossibilité d'écrire. Durant cette journée, Franz Kafka, que nous avons divisée en deux parties, description d'un combat, Kafka et le monde féminin, nous allons interroger une vie qui n'aura été qu'un combat obscur. Et nous en dégagerons les quatre aspects représentés par les rapports avec son père, avec la littérature, avec le monde féminin. Et ces trois tourments, ces trois formes de combat, s'entrecroiseront pour donner forme au combat spirituel. Évidemment, chacun de ces rapports mettant en cause tous les autres. Chez Kafka, la crise est profonde, toujours totale. Le tourment de son corps est le tourment de tout son être. L'insomnie, le problème du mariage, la question du judaïsme, le mouvement de la création littéraire, la maladie expriment toutes ces difficultés. L'échec dont parlera Philippe Lacoulabarthe doit se mesurer au résultat du combat dans lequel Kafka a voulu engager la littérature elle-même, de sorte que cette émission de longue durée se déroule comme le récit d'une vie, dont les articulations se trouvent prélevées dans les œuvres mêmes de Kafka. Romans, fragments, nouvelles, journal, correspondances, lues par des écrivains tels que Louis-René Desforêts, Bernard Noël, Alain Robbe-Grillet pour le procès, Philippe Solers pour le château, Anne-Marie Albiach et Alain Weinstein pour le journal qui traversera toute la seconde partie de 19h20 à 23h55.
Tato emise je věnovaná, můžeme si to přečíst po česky?
Můžete to pojmenovat.
Journée Franz Kafka. À l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance. Qui consacre une journée à tout. Une journée à Franz Kafka à l'occasion du 100e anniversaire.
C'est pareil, c'est pareil.
Bon, je vais être naïf, hein, parce que devant Kafka, je suis très très naïf. J'ai pas de point de vue critique, théorique, surplombant. C'est un texte qui, en général, me touche trop près pour que je puisse me permettre comme ça de l'analyser. Fin.
Philippe Lacoux-Labarthe.
Bon, j'ai l'impression qu'il y a deux projets chez Kafka. Il y a un projet littéraire très, très ample. Il a certainement voulu écrire ce qu'on peut appeler de grands livres. Et je crois soupçonner sur le modèle du grand roman du 19e. Le procès, par exemple. Et puis, il y a une espèce de pratique de la prose, parce que c'était un prosateur, très proche de la prose poétique, dont sans doute il devait recueillir la tradition soit du romantisme allemand, soit d'écrivains pour lui étrangers. Enfin, pour moi, ça n'est pas sans rapport, par exemple, avec certains textes en prose de Baudelaire, enfin, des petits poèmes en prose, des choses comme ça. Et je veux dire que ce sont ces textes qui me touchent du plus près. Ces textes ou les nouvelles. Bon, j'ai cette impression qui est peut-être fausse, hein, qui est sans doute scandaleuse, ou qui sera sans doute scandaleuse pour beaucoup, que les grands romans sont une forme d'échec à la Flaubert, encore amplifiée. En revanche, les petits textes en prose, qui peut-être sont l'écho de ce grand échec, sont paradoxalement une espèce de réussite parfaite.
J'étais raide et froid, j'étais un pont, j'enjambais un abîme. D'un côté les orteils, de l'autre étaient fixées les mains. Je me suis agrippé dans l'argile friable. Les pans de mon tablier flottaient à mes côtés. Dans la profondeur, le glacial ruisseau plein de truites faisait son bruit. Aucun touriste ne s'égarait vers ces hauteurs impraticables. Le pont n'était même pas consigné dans les cartes. Ainsi, j'étais allongé et j'attendais. Il me fallait attendre. Une fois bâti, aucun pont ne peut cesser d'être un pont, à moins de s'écrouler.
Thank you.
Qu'est-ce qui vous touche chez Kafka de trop près?
C'est que depuis que j'ai commencé à le lire, c'est moins un écrivain des livres, des textes, que premièrement un certain ton, même en traduction. Bon, ce fameux ton froid, détaché, et qu'une... bon, au fond, je dirais qu'une forme d'existence. Bon, c'est pour ça que je dis que je suis naïf devant Kafka, parce que ce que je lis à travers ces textes, c'est une existence pauvre, ou plus exactement, quelqu'un dont on ne peut s'empêcher de dire qu'il ne... Et c'est le moins qu'on puisse dire, qu'il avait une espèce de mal atroce à exister. Donc il n'arrivait pas à exister. Et je connais rien de comparable dans la littérature. Et cette espèce de mal à exister, ce très mauvais rapport à l'existence, bon, c'est ça effectivement qui me touche de manière très, très brutale, sans que je puisse là-dessus faire le moindre commentaire.
C'est une sorte de perte d'identité, vous croyez ?
Pas tellement, non. Non, non, je crois qu'il avait une conscience très, très aiguë de son identité, même si cette identité était une identité malade, au fond. Bon, je crois que c'est un très, très grand malade. Et un malade... un malade mental qui se bat contre sa maladie, avec un acharnement incroyable, et tout ce qu'il écrit, c'est ça. Bon, je ne sais pas vivre, et j'écris que je ne sais pas vivre, non pas pour apprendre à vivre, parce que je crois qu'il n'y a aucun espoir dans ces textes-là, mais parce que écrire que je ne sais pas vivre porte un témoignage fulgurant sur l'existence. Ce n'est pas une projection sur Kafka, ou une identification avec lui, pas du tout, mais... Je crois que, à la lecture de ces textes, on ne peut pas ne pas reconnaître cette espèce de défaut par rapport à l'existence, qui bien entendu a certainement maintenant une portée très, disons, générale ou universelle.
Mais quand vous me dites c'est un malade mental, moi ça me fait un peu froid dans le dos.
Ah ben moi aussi. Non, je dis malade mental parce que je crois qu'il faut de temps en temps être, par rapport aux infinies précautions qu'on prend sur ces choses aujourd'hui, il faut être un petit peu brutal. Bon, c'est quelqu'un qui certainement, je n'ai aucune catégorie psychiatrique ou psychanalytique là-dessus, mais c'est quelqu'un qui est certainement pervers, qui dans les rapports qu'il a entretenus avec les autres a été d'une complexité épouvantable, qui dans son propre le propre rapport qu'il entretenait avec lui-même, comme on le voit constamment dans le journal, bon, était vraiment je sais pas, d'une espèce d'ultra subtilité qui frise la pathologie. Bon, et quand je dis ça, c'est presque un... C'est pas du tout un terme injurieux que je vais employer, mais je crois qu'il faut reconnaître que Kafka est dans la lignée de ces grands écrivains, qui sont de grands écrivains, pas seulement parce que ce sont des malades, mais aussi parce que ce sont des malades. Et que il est comme beaucoup d'écrivains d'origine romantique. Enfin, je crois que c'est un des... pas un des derniers, mais un des grands écrivains de la lignée romantique européenne. Et donc, parler de maladie n'est pas du tout... je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas du tout pour accabler Kafka, ça n'est pas du tout pour dire, bon, tout s'explique parce que c'était un malade mental, ce qui serait absurde. C'est pas du tout pour non plus faire... une espèce de biographisme qui, je crois d'ailleurs, n'a aucun intérêt, mais c'est parce que j'ai l'impression que Kafka a écrit cette maladie, constamment. On peut très bien considérer, par exemple, ça n'est pas que ça, la métamorphose, mais on peut très bien considérer que la métamorphose, c'est le récit d'un fantasme. Ou on peut très bien lire le journal comme une espèce de compte permanent que Kafka règle avec ses difficultés insurmontables à vivre. Alors c'est en ce sens-là que je dis que c'est un malade mental, mais je le dirais autant de Flaubert ou de Baudelaire ou de Proust, bien entendu, et de pas mal d'autres. Et un malade mental, c'est bien entendu toujours un malade social, et non seulement un malade social, mais le malade d'une civilisation. Ça, je crois que dans Kafka, alors c'est parfaitement exemplaire. Le fait qu'il était juif, le fait que la langue qu'il écrivait n'était pas sa langue à proprement parler, le fait qu'il était dans cette partie de l'Europe qui était la plus sensible à l'époque à la crise européenne générale. Bon, si vous voulez, je dirais très brutalement qu'un écrivain depuis l'âge romantique, un écrivain est un fou. Et bien entendu, cette folie n'est pas la folie qu'on pourrait imputer à la responsabilité subjective de tel ou tel. Cette folie, c'est ce dans quoi est rentrée l'Europe à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et Kafka l'a ressenti à l'extrême. Ça.
De quoi est-elle faite, cette folie européenne?
Ah. Il faudrait beaucoup de temps pour l'expliquer. Bon, pour le dire d'un mot, c'est le nihilisme. Pour le dire d'un autre mot qui vient de Nietzsche, c'est Dieu est mort. Qu'on interprète comme on voudra, philosophiquement, religieusement, etc. Il y a quelque chose, pour le dire d'un autre mot encore, qui viendrait d'une autre tradition, c'est que, et Kafka l'a ressenti à un point extraordinaire, c'est que la tradition occidentale européenne est rompue. Bon, tout cela, j'ai l'impression que Kafka, après d'autres, mais plus que d'autres, à cause sans doute de sa situation historique, l'a ressenti et l'a... On ne peut pas dire l'a exprimé, je ne crois pas qu'il l'exprime, mais ce qu'il écrit, c'est ça. Il écrit cette espèce de folie à quoi expose le nihilisme. Bon, c'est une écriture posée sur le vide. Et qui d'ailleurs entraîne, à cause de ça, un malaise extraordinaire, parce que il ouvre le vide constamment sur lequel nous voudrions fermer les yeux.
Le pont.
René des forêts.
J'étais raide et froid. J'étais un pont. J'enjambais un abîme. D'un côté les orteils, de l'autre étaient fixées les mains. Je me suis agrippé dans l'argile friable. Les pans de mon tablier flottaient à mes côtés. Dans la profondeur, le glacial ruisseau plein de truites faisait son bruit. Aucun touriste ne s'égarait vers ces hauteurs impraticables. Le pont n'était même pas consigné dans les cartes. Ainsi, j'étais allongé et j'attendais. Il me fallait attendre. Une fois bâti, aucun pont ne peut cesser d'être un pont, à moins de s'écrouler. Une fois, c'était vers le soir, le premier, le millième, je n'en sais rien, mes pensées allaient toujours dans leur confusion et toujours tournaient en rond. Vers le soir en été, le ruisseau bruissait plus sombrement, alors soudain j'entendis un pas d'homme. C'est là que ça ne va pas. Ça ne va pas parce que je ne comprends pas bien. Vous voyez comment ça se présente. Il faudrait que je regarde sur une autre traduction. Je ne comprends pas bien si... N'est-ce pas, il y a là tout d'un coup par ici, et on ne sait pas bien. Et tout d'un coup, donc, il y a un trait d'union et on lui parle, n'est-ce pas? Mais alors par ici, ce n'est pas encore... Est-ce que le trait aurait été mal mis? J'ai envie de regarder. Je ne sais plus dans quoi c'est déjà. À la muraille de Chine, oui, je vois. La muraille, mais alors c'est la traduction de qui, ça?
De Violette. Description.
Oui, voilà. En effet, c'est la muraille. Il y a un récit que je trouve très beau, qui est Recherche d'un chien, mais évidemment, c'est un récit extrêmement long.
N'a rien à faire, le chien de Kafka n'a rien à faire avec le chien sur sa photographie.
Jérusalem, David Flusser.
Le chien a existé dans une petite ville, Sedlec, et il est écrit dans son journal, « Spaziergang mit einem Hund », ça veut dire une promenade avec un chien, alors avec le chien. Alors le chien existe, j'espère que les petits-petits-fils de ce chien existent à Sedlec jusqu'aujourd'hui, sous le régime communiste, qui ressemble un peu au procès, n'est-ce pas? Alors, mais la question est ce que vous voulez de moi de savoir sur Kafka.
Pourquoi pensez-vous maintenant au chien?
Parce que la chose, je pense que la meilleure chose qu'il a écrite, c'était ce que non Forschungen eines Hundes, ça veut dire les recherches d'un chien, c'est une chose qu'il a écrit à la fin de sa vie, où il a essayé de trouver de résoudre la question du matérialisme moderne. Il le décrit que les chiens ont tout à fait oublié l'existence des hommes, et c'est pour cela qu'ils ont développé une théorie matérialiste qui ne marche pas. Alors un chien a essayé de résoudre cette question. Pourquoi, par exemple, pourquoi les chiens pensent qu'ils reçoivent la nourriture s'ils urine sur la terre et que la nourriture vient de la terre. Mais il a trouvé qu'il n'y a aucune connexion entre cet acte matérialiste et entre la nourriture, parce que la nourriture ne vient pas de la terre, elle vient de là-bas. Mais parce que les chiens ont déjà tout à fait oublié, parce qu'ils sont devenus trop chiens, c'est pour cela qu'ils n'ont eu aucun sentiment, ils n'ont même pas pu voir les hommes, et c'est pour cela qu'ils ont fait des solutions impossibles de, la, de l'existence humaine. Et c'est intéressant de les voir parce que nous voyons ici que dans les dernières choses que Kafka a écrites, nous voyons une différence entre sa position au commencement, où il a pensé qu'on pourrait trouver l'absolu parce qu'il n'y a aucun contact entre l'absolu et l'homme, et c'est possible même que l'absolu n'existe pas. À la fin de sa vie, il a trouvé que c'est la faute des hommes.
Le pont, oui, 145. Ah ben lui, il a purement et simplement... Ah, il a tout enlevé des tas de choses. Je suis quand même assez stupéfait. C'est-à-dire qu'il a supprimé, le, à partir de par ici, toute le... Toute la phrase dite par... Oui, c'est ça, le dialogue. Ah, c'est tout à fait, oui, alors là... Ah, non, attendez. Je ne sais pas, je suis complètement perdu, là. Je ne comprends plus, ce serait plus du tout le même... Je sais pas, il y a... Là, vers le soir en été, le ruisseau bruissait plus sombrement, alors soudain j'entendis un pas d'homme. Sur le soir en été, à l'heure où le torrent mugit déjà plus sombrement, ce qui est plus du tout pareil, j'entendis venir le pas d'un homme. Il approchait, il était là. Ah oui, c'est ça, par ici, c'est, il le traduit comme ça, ce qui est peut-être mieux dire, je ne sais pas. Oui, c'est ça, alors c'est après que vient l'heure, oui, c'est ça. C'est à se demander si je ne ferais pas mieux de lire celui de... Parce que ce par ici ne va pas bien, on ne comprend pas. Ben, je vais peut-être lire celui de Vialat, en fin de compte. C'est peut-être mieux.
Schématiser, on pourrait dire que Kafka, d'une certaine manière, a accompli jusqu'au bout le geste romantique. Je n'écris rien, c'est moi qui suis l'œuvre d'art. Et il l'a poussé jusqu'au bout parce que, au lieu de se constituer en œuvre d'art lui-même sur le mode du dandy, ou sur le mode du créateur génial, etc., il s'est constitué œuvre d'art sur le mode du minable, du petit bureaucrate, avec des histoires privées inextricables. Et là, je crois qu'il a été beaucoup plus loin que Flaubert, ou beaucoup plus loin que les plus noirs et les plus désespérés des artistes modernes. Et puis en même temps, il a su obscurément... et c'est toute l'histoire de cette espèce de transmission ambiguë de ces manuscrits, brûlez ça, qui voulait évidemment dire aussi, ne brûlez pas ça. Il a su aussi que tout ce qu'il avait écrit était une véritable œuvre. Dans le journal, on a en tous les cas l'impression constamment que, et d'abord parce qu'il tient ce journal et qu'il le tient sur ce mode, comme véritablement un journal d'écrivain, on a constamment l'impression qu'il sait parfaitement qu'il faut écrire. Mais il écrit après, une sorte de désespoir absolu sur l'œuvre. Il écrit en sachant que l'œuvre, au sens où l'Europe l'a entendu depuis, finalement depuis les Grecs, l'œuvre, ça n'est plus possible. Et il ne fragmente pas pour pour, dans chaque fragment, retrouver une espèce de condensé d'œuvre absolue. Et c'est là qu'il n'est plus romantique du tout. Il fragmente parce qu'il sait que, à la limite, bon, 10 lignes suffisent et que ça ne vaut pas la peine d'en écrire plus. Les petits textes qu'on a rassemblés dans les recueils, comme, du moins dans l'édition française, La Muraille de Chine, ou Préparatifs de noces à la campagne, ça, ce sont des petits textes qui, à la limite, redeviennent de purs poèmes. Alors que visiblement, c'est des débuts de récits, c'est des esquisses de nouvelles, c'est de faux essais.
J'étais raide et froid, j'étais un pot, je passais au-dessus d'un abîme. La pointe de mes pieds s'enfonçait d'un côté, de l'autre mes mains s'engageaient dans la terre. Je me suis accroché de toutes mes dents à l'argile qui s'effritait. Les pans de mon veston battaient à mes côtés. Au fond du gouffre, on entendait mugir l'eau glacée du torrent que chérissent les truites. Nul touriste ne s'égarait à ces hauteurs impraticables, nulle carte encore ne mentionnait le pont. J'étais donc là et j'attendais. Et j'étais obligé d'attendre. Sans s'effondrer, un pont, une fois lancé, ne saurait cesser d'être un pont. Un jour, le soir tombait, était-ce le premier ou le millième, je ne sais, la roue de mes pensées roulait dans un tumulte. Sur le soir en été, à l'heure où le torrent mugit déjà plus sombrement, j'entendis venir le pas d'un homme. Il approchait, il était là. Étends-toi, pont. Tiens-toi, poutre sans garde-fou. Ne laisse pas tomber celui qu'on te confie. Compense imperceptiblement l'incertitude de son pas, mais s'il chancelle, fais-toi reconnaître, et comme un dieu des monts, lance-le sur le sol. Il vint, il me tâta de sa canne ferrée, il releva les pans de ma veste avec la pointe et les replia sur mon dos. Il promena sa canne aiguë dans ma tignasse et l'y laissa longtemps, tandis qu'il regardait probablement d'un air farouche autour de lui. Et mon rêve suivait le sien au-delà des monts et des plaines quand il me sauta soudain à pieds joints sur les reins. Je frémis d'une douleur atroce. Je ne m'étais douté de rien. Qui était-ce ? Un enfant ? Un rêve ? Un brigand ? Un désespéré ? Un tentateur ? Un exterminateur ? Je me retournai pour le voir. Un pont se retournait. Je n'avais pas fini que je tombais déjà. Je m'effondrais. J'étais fracassé et empalé par les cailloux aigus qui m'avaient toujours regardé jusque-là si paisiblement, du fond des eaux déchaînées.
C'était une façon de se sauver, de trouver son âme. Et il cite là-bas, c'est très intéressant de les voir, d'après mon opinion, il cite là-bas Flaubert. Ça veut dire qu'il a découvert dans l'existence de Flaubert, la fin de sa vie, il a trouvé une analogie de sa situation pour lui décrire et de déformer la réalité pour se trouver, pour se retrouver, c'était la chose la plus importante pour lui. Je pense qu'une question qui se pose, c'est quand doit-on allégoriser Kafka? C'était un de mes amis qui m'a, hier, qu'il m'a dit, maintenant j'espère qu'il se trouve déjà à Paris aujourd'hui, il viendra à Paris, un chercheur ici, il m'a dit que par exemple la Strafkolonie, ça veut dire, je ne sais pas, la colonie de punition,
pénitentiaire,
que là-bas, il est influencé par Juliette, par cette machine dans Juliette de Marquis de Sade. Nous voyons comment il a toujours déformé les informations qu'il a reçues pour faire une chose plus profonde.
Est-ce que vous ne pensez pas que Kafka est porté par le futur, qu'il prévoit notre présent ?
Et qui un grand écrivain prévoit toujours notre présent. Nous pouvons, si quelqu'un lit, par exemple, l'Odyssée d'Homère, n'est-ce pas ? Vous savez, il y avait un écrivain grec qui se nommait Homère et qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée. Si, par exemple, quelqu'un lit l'Odyssée, alors, pour moi, de lire l'Odyssée, c'est une expérience presque horrible. Je ne peux pas le finir parce que la question est, dans l'Odyssée, qu'on ne peut pas retourner. Alors, l'Odyssée, c'est la même chose comme les romans, les films sur la guerre de Vietnam, c'est la guerre d'Algérie, qu'on ne peut pas retourner. Est-ce que ainsi nous devons dire que l'Odyssée est la prévue, parce que c'est la condition humaine qui est décrite dans l'Odyssée, n'est-ce pas ? Et c'est la même chose aussi, la situation, le sentiment qui se trouve dans le château, qui se trouve en Amérique, qu'il y a ce qu'on nomme dans la théologie catholique, le sens plénière, une chose que ça veut dire qu'un auteur peut écrire et qu'il y a encore un sens, pas un sens allégorique, mais un sens qui se trouve dans les choses que l'auteur lui-même ne sait pas et ne peut pas savoir précisément. Et ça, c'est une question. C'est naturel, et même j'ai trouvé aussi dans mes recherches sur Kafka, que nous trouvons dans Kafka et la description de sa situation et de la situation de sa vie et de la situation de tout ce qu'il avait entouré, ça veut dire de Prague, de son temps. Et parce que c'était un temps d'une révolution, d'un changement, de la fin de la monarchie autrichienne, de l'Empire, n'est-ce pas, autrichien. Alors c'est pour cela, lui, qui s'est trouvé dans une situation d'une crise, il peut être prévoyant pour une situation d'une crise. Et je pense qu'il a eu tout à fait raison quand il s'est comparé avec Flaubert, parce que aussi Flaubert, disons, dans l'éducation sentimentale, on pourrait le nommer un prophète, n'est-ce pas ? Pas dans Salambo, naturellement, ou disons, même dans Madame Bovary. Et alors, il y a toujours quelque chose d'un prophète. C'est un prophète qui fonctionne au temps où sa prophétie s'accomplit. Il faut savoir que chez Kafka, vraiment, il y a une tendance souvent, quand il sait ce qu'il veut décrire, quand il, comme je dis, pas seulement dans ses fabliaux, dans ses fables, n'est-ce pas, mais aussi quand il décrit dans ses short stories des choses qui sont courtes. Alors il veut, il sait qu'il parle, qu'il parle d'une façon typologique, allégorique, etc. Mais la grandeur de Kafka n'est pas qu'il y a deux sens, que les deux sens sont un sens, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est l'histoire, le sujet, qui contient déjà, le sujet lui-même contient déjà les autres sens qui se trouvent dans ce qu'il a écrit. Et c'est parce qu'il était vraiment, parce que son, on pourrait dire que son réalisme est quelque chose de fantasmagorique, n'est-ce pas? Kafka a pu découvrir dans les auteurs d'avant, disons par exemple chez Dickens, il a pu découvrir l'autre dimension que les autres n'ont pas découvert, parce que lui-même, il a voulu, il a senti que description, a même quand il écrit, disons, l'Amérique, qui est évidemment influencée par les films de ce temps-là, par les comics de ce temps-là, alors même il a décrit, même quand il a voulu écrire quelque chose comme Dickens, il a découvert, redécouvert un sens qui se trouve toujours derrière la réalité. Mais je me demande pourquoi devrions-nous penser que c'est qu'il est un prophète pour aujourd'hui. Il est un prophète pour tous les temps.
Préparatif de noces à la campagne, page 77. Aussi solidement que la main tient la pierre, mais elle ne la tient solidement que pour le rejeter d'autant plus loin. Mais le chemin mène aussi à ce lointain. Tu es la tâche, pas un élève à la ronde. Le vrai adversaire fait passer en toi un courage immense. Comprendre cette chance, le sol sur lequel tu te tiens ne peut pas être plus grand que ce qu'on couvre tes deux pieds. Comment peut-on se réjouir du monde à moins de se réfugier en lui? Les cachettes sont innombrables, la délivrance unique. En revanche, il y a autant de possibilités de délivrance que de cachettes. Il y a un but, mais pas de chemin. Ce que nous nommons chemin est hésitation. Il nous incombe encore de faire le négatif. Le positif nous est déjà donné. Préparatif de noces à la campagne, page 80. Il n'y a pas d'avoir, il n'y a qu'un être. Un être réclamant le dernier souffle, l'étouffement.
Je ne suis pas né à Prague, mais j'ai vécu à Prague et j'étais en contact avec Kafka Ça veut dire pas avec Kafka lui-même, parce que ce n'était pas possible pour point de vue chronologique, mais j'étais en contact avec toute la société, même avec sa famille. C'était mon grand-père qui a travaillé chez le fameux père de Kafka, et j'ai connu la famille de Kafka. Un de ses cousins était le meilleur ami de notre famille dans une ville à Bohème.
Můj milý Maxi, máš štěstí, že nejsi doma? Unikneš několika dobrodiním, která jsi mi snad chtěl prokázat. Já mám štěstí, protože tě tak nemohu snadněji a odhodlaněji požádat, abys mi prominul a omluvil mě u všech, jestliže zítra přijdu k Baumovi až kolem 9. Jsou u nás nějací příbuzní. Ostatně zaskočím k tobě na chvilku v pondělí v 5. Kdybych tě snad rušil v práci, zapři se. Tvůj Franc.
Conversation avec Kafka, Gustave Janouche. Trois semaines environ après ma première rencontre avec Franz Kafka, nous fîmes notre première promenade. Il me dit au bureau de l'attendre à 4 heures près du monument de Jean Hus, sur la place de la vieille ville. Il me rapporterait un cahier de poèmes que je lui avais prêté. J'étais à l'heure au rendez-vous, mais Franz Kafka arriva avec presque 1 heure de retard. Il s'excusa. Je suis incapable d'être exact à un rendez-vous. Je suis toujours en retard. Je veux être maître du temps qui passe. Je suis plein de bonne volonté et de désir sincère de respecter l'heure convenue. Mais à chaque fois, le monde extérieur, ou bien mon corps, les réduisent à néant pour me prouver ma faiblesse. C'est vraisemblablement aussi la racine de ma maladie. Nous fîmes le tour de la place. Kafka me dit que certains de mes poèmes pourraient être publiés. Il avait l'intention de les confier à Otto Pick. Je lui en ai déjà parlé, me dit-il. Je lui demandais de ne pas faire publier ses poèmes. Kafka s'arrêta. Ainsi, vous n'écrivez pas ces choses pour qu'elles soient publiées ? Non, ce ne sont que des essais, de très modestes essais, pour me prouver que je ne suis pas tout à fait stupide. Nous reprîmes notre promenade. Kafka me présenta l'affaire et la maison familiale. Je lui dis « Vous êtes donc riche ?» Franz Kafka fit une grimace. « Qu'est-ce que la richesse ? Pour l'un, une vieille chemise est déjà la richesse. Tel autre est pauvre avec 10 millions. La richesse est une chose relative et peu satisfaisante. Ce n'est au fond qu'une situation particulière. Être riche signifie dépendre de choses que l'on possède et que l'on est contraint de protéger de la destruction en accumulant les possessions et les dépendances nouvelles. La richesse n'est qu'une matérialisation de l'insécurité. Mais tout cela appartient à mes parents, pas à moi. Voici comment s'acheva cette première promenade avec Franz Kafka. Notre promenade circulaire nous avait ramenés vers le palais Kinsky, quand, sous l'enseigne de la firme Hermann Kafka, nous vîmes apparaître un homme grand et corpulent, portant un pardessus noir et un chapeau à reflets. Il s'immobilisa à 5 pas environ de nous et nous laissa venir vers lui. Quand nous eûmes fait 3 pas, il dit d'une voix forte « Franz, à la maison, l'air est humide. » Kafka dit d'une voix étrangement feutrée « Mon père, il se fait du souci pour moi. L'amour a souvent le visage de la violence. Adieu. Passez me voir. » Je fis signe que oui. Franz Kafka s'éloigna sans me tendre la main.
Oui, si j'ai pris ça, ça peut peut-être un peu peut-être vous étonner, mais c'est aussi parce qu'on voit apparaître le personnage du père qui est important. C'est peut-être une des seules fois où on le voit apparaître.
Thank you.
Je connais vraiment, la, non pas seulement la famille, mais je connais aussi et tous les rues où Kafka a vécu, la cathédrale où Kafka a situé le procès. Et je connais, ce qui est très difficile d'expliquer, je connais la situation des familles en Bohême. Pour un juif de Bohême, évidemment, ce n'est pas si difficile de comprendre que quand Kafka est venu à la maison et quand il a reçu un exemplaire de son premier livre, n'est-ce pas, son petit livre, alors que le père a dit « donne ça ici, nous jouons ici des cartes », n'est-ce pas, alors c'est une chose compréhensible pour Bohème, ça veut dire à Bohème, la situation était ainsi que les, je ne sais pas comment c'était chez les autres, mais je connais ça de toutes les familles en Bohème, presque toutes les familles, que le père était un personnage dominant, qu'il y avait l'influence de la culture chez les Juifs. Naturellement, ils étaient des gens occidentaux, n'est-ce pas? Kafka lui-même dit qu'il est le plus occidentaux des occidentaux, ça veut dire les juifs assimilés. Mais évidemment, quelque force a existé encore de cette façon patriarcale des juifs de l'Europe, de Pologne, etc., qui... La famille, n'est-ce pas, existait. Et le père a eu la possibilité de décider de beaucoup de choses chez ses enfants. Et je ne sais pas comment était le père de Kafka. Évidemment, il était moins agréable que mon père. Mais je ne sais pas s'il faut faire de ce pauvre type une chose si horrible. Mais comme j'ai dit, j'ai essayé de savoir ce que j'ai pu savoir de Kafka. Aussi ici, j'ai parlé avec les gens qui ont connu Kafka, et aussi à Prague, parce que notre famille était une bonne compagnie. Nous avons connu très bien Max Brod, alors c'est pour cela, même avec Max Brod, Félix Welch, Hugo Bergmann et tous ces gens-là, parce que Kafka m'a fasciné. C'est intéressant, par exemple, Félix Welch. Félix Welch, quand il a cherché ici une maison, il n'a pas pu la trouver, alors dit que c'est comme chez Kafka. Ça veut dire qu'à Bohème, Kafka, c'était une chose, comme j'ai dit, une fantasmagorie réalistique. Et ce n'était pas on ne l'a pas lu pour retrouver les vérités de la vie, n'est-ce pas? On a connu ça. Et tout le monde qui connaît Prague sait très bien que c'est une ville qui a une influence très grande sur les hommes qui s'y trouvent. Je pense que cette ville, avec les ruelles, avec tout ça, ça a une fonction fondamentale dans la vie, n'est-ce pas? On est attrayé par cette ville. Et il y a quelque chose, une atmosphère presque mystique qui, si vous voulez connaître une chose comme ça, à Paris, alors je ne sais pas comment le marais aujourd'hui, vous retrouverez un peu à Paris aussi cette atmosphère, n'est-ce pas? Ce n'est pas à Prague une atmosphère seulement d'un quartier, c'est l'atmosphère de toute la ville. Et si nous pensons que la situation de Kafka, n'est-ce pas, à la fin de la monarchie autrichienne et le nouveau. Il a décrit, disons, dans cette société où lui, comme un juif qui a parlé l'allemand, qui l'a su très bien le tchèque, quelque chose comme la fin, n'est-ce pas, l'assimilation. C'est pour cela qu'il a toujours cherché ses racines. Il a essayé de retrouver son judaïsme. Il a appris l'hébreu. Il y a ici une femme qui enseigne et de laquelle il a appris l'hébreu. Il a voulu, pour finir cette vie déracinée, il a voulu retrouver ses racines. Le mystère de Prague vient parce que c'était une ville depuis le... c'est une ville de golems, n'est-ce pas? C'est une ville dans le 16e, 17e siècle. C'était une ville des alchimistes, des hommes mystiques, une ville où la religion a joué vraiment un rôle principal. Une ville qui était toujours... ça s'est répété, n'est-ce pas? La vie et la mort de la ville, n'est-ce pas? Cette grandeur de Prague, au temps où les empereurs ont vécu là-bas, où ils ont bâti cette cathédrale, où Kafka a situé devant la loi, n'est-ce pas? Et après ça, le grand débâcle de la... dans la guerre de 30 ans. Après ça, les ténèbres d'un catholicisme farouche, avec des bâtiments baroques. Après ça, le commencement d'une lutte entre deux nations, les Tchèques et les Allemands. La République, que Kafka a connue seulement le commencement, après ça Hitler, après ça le communisme. Je me souviens quand j'étais à Prague pour visiter Prague de 47 à 50, alors que qu'on m'a invité, la police secrète m'a invité pour me demander quelque chose. J'étais naïf parce que j'ai pensé que rien ne peut... venir que la situation, parce que j'étais le citoyen de l'État d'Israël. Oh, quelle faute, je suis heureux que je n'ai pas eu peur. Alors je suis venu quelque part, je suis venu sur le bourg de ce fleuve où Kafka a nagé, n'est-ce pas. Il y avait une salle, une longue salle, deux gens étaient là-bas de la police secrète. Je ne sais pas pourquoi, toujours dans la police secrète, il y a un homme qui est blond, un homme qui est brunet. Je me demande comment ils le font, par exemple à Ghana, ou quelque chose comme ça, où ils trouvent le blond. Alors ils m'ont demandé. Je suis venu, c'était long des tables, long comme ça. Alors quelque part où je n'ai jamais été. Alors c'était même la même situation que j'ai connue chez Kafka. Heureusement, rien. Ils m'ont seulement demandé quelque chose. Et ainsi, vous voyez, une situation où c'était Slansky lui-même, sans le savoir, a déjà préparé son procès lui-même. Alors c'est aussi une situation kafkaesque, n'est-ce pas? Alors c'est une ville qui, toujours, elle est morte, elle est vivante, elle commence à vivre, elle est tuée de nouveau, et vous trouvez là-bas, disons, une famille qui a connu, une famille juive, c'était un apothécaire qui était l'apothécaire dans la même pharmacie dans laquelle était apothécaire le père d'une amie de Mozart. Alors, je me souviens, je ne sais pas si Kafka l'a su, n'est-ce pas? C'est la vie, c'est la ville où Don Giovanni a eu sa première, n'est-ce pas? Où Weber était le directeur, le Weber de Franck Thureur, comment ça se nomme, le compositeur allemand, n'est-ce pas, qui a vécu là-bas, à Prague. Alors c'est une ville avec un passé, avec un avenir qui ne s'accomplit pas. Ça, c'est une chose formidable. Et Kafka lui-même a décrit, malheureusement, je n'ai pas ici une traduction française de ce qu'il a écrit sur Prague, sur la quand il décrit la Prague comme un tour de Babylon, comme la tour de Babylon dans une petite histoire. On veut bâtir la tour. On ne la finit pas parce que la tour n'aurait, parce que la technique se développera. Et maintenant, il y a des conflits entre les compatriotes, entre les groupes nationaux. On finira tout ça, on le bâtira seulement après la fin de la guerre, etc. etc. Alors on voit très bien qu'il décrit ici Prague comme la tour de Babylone, n'est-ce pas? Alors c'était pour lui un symbole de décrire Prague. Il a toujours aimé, haï. Mais pour dire encore une chose qu'il ne faudrait pas oublier, son malheur était qu'il n'a pas... Il était plus intelligent que les autres juifs à Prague. Ça veut dire qu'il a reconnu qu'il y a dans l'assimilation moderne que c'était une chose tragique.
Vous êtes à l'écoute de France Culture. Journée Franz Kafka à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance. Posloucháte Radio France Culture. Tato emise je věnovaná Franzi Kafkovi k stému výročí jeho narození. Vous êtes à l'écoute de France Culture qui consacre une journée à Franz Kafka à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance.
Alors ça, là, maintenant, ça va être un récit, qui est, vous savez, le seau à charbon, vous voyez ça?
À cheval.
C'est ça, oui, à cheval sur le seau. Alors ça, j'ai pris aussi cette traduction, j'ai peut-être eu tort en fin de compte. Celle de Starobinsky. À cheval sur le seau à charbon. Fini tout le charbon, vide le seau, absurde la pelle, poumon de glace le fourneau, la chambre gonflée à bloc par le gel, devant la fenêtre les arbres raidis dans leurs givres, le ciel, un bouclier d'argent contre celui qui implore assistance. Il faut que je trouve du charbon. Je ne puis pourtant pas mourir de froid. Derrière moi, le fourneau impitoyable. Devant moi, le ciel sans plus d'espoir. C'est pourquoi je vais faire une vive chevauchée à mi-distance entre ciel et fourneau et chercher de l'aide à l'endroit intermédiaire chez le marchand de charbon. Mais il ne veut plus rien savoir de mes supplications habituelles. Il faudra lui prouver avec la dernière exactitude que je n'ai plus la moindre poussière de charbon et qu'il représente ainsi pour moi rien de moins que le soleil au firmament. Il faut que j'arrive comme le mendiant qui, râlant de faim au seuil de la porte, veut en finir, et c'est pourquoi la cuisinière des maîtres se décide à filtrer pour lui le marc du dernier café. C'est ainsi que le marchand furieux, mais sous la lumière du commandement tu ne tueras point, sera contraint de me lancer une pleine pelletée dans le seau. Mon entrée solennelle en décidera déjà. C'est pourquoi je pars en cavalier sur le seau. À cheval sur le seau à charbon, la main en haut sur la poignée, la plus simple de toutes les brides, je me déhanche avec difficulté pour descendre l'escalier. Mais arrivé dans la rue, mon seau prend de la hauteur, superbe, superbe. Les chameaux accroupis très bas au repos, quand ils se lèvent en frémissant sous la pointe de leur conducteur, ne sont pas plus beaux. À travers la rue durcie par le gel, nous avançons d'un trot régulier. Souvent je suis soulevé jusqu'à la hauteur des premiers étages. Jamais je ne redescends vers les portes d'entrée, et je plane extraordinairement haut, devant le sous-sol du marchand. Tout là-bas, dans la profondeur, il est blotti à sa petite table et il écrit. Pour diminuer la chaleur excessive, il a ouvert la porte. « Marchand de charbon !» je crie avec une voix brûlée en creux par le froid, entourée par les nuages de la respiration. « Je t'en supplie, marchand de charbon, donne-moi un peu de charbon. Mon seau est déjà si vide que je puis l'enfourcher comme un coursier. Daigne, sitôt que je pourrai, je te paierai. » Le marchand met sa main à l'oreille. « Est-ce que j'entends bien ?» Il questionne par-dessus l'épaule sa femme qui tricote sur le banc du poêle. « Est-ce que j'entends bien ? C'est un client ?»« Je n'entends rien du tout, » dit la femme, avec sa calme respiration régulière au-dessus des fils de laine, le dos au chaud, dans une sensation de bien-être. « Oh oui, » criai-je, « c'est moi, un vieux client, fidèlement à vous, pour l'instant seulement sans moyens. » Femme, dit le marchand, il y a quelqu'un. Je ne puis pourtant pas m'abuser à ce point, ça doit être un vieux, un très vieux client pour savoir si bien parler à mon cœur. Qu'as-tu, mon homme, dit la femme, et s'arrêtant un instant de travailler, elle presse son tricot contre sa poitrine. Il n'y a personne, la rue est vide, toute notre clientèle a sa provision. Nous pouvons fermer notre commerce pour des jours et nous reposer tout notre soûl. Mais je suis ici. « Assis sur le seau, je crie, et les larmes de froid, les larmes qui ne veulent rien dire, voilent mes yeux. Je vous en prie, regardez donc en haut, vous me découvrirez tout de suite. Je vous supplie pour une pelletée, et si vous m'en donnez deux, vous ferez déborder mon bonheur, puisque le reste de la clientèle a déjà sa provision. Ah, que je l'entende déjà gronder dans le seau !»« J'arrive, dit le marchand, et sur ses courtes jambes, il veut grimper l'escalier du sous-sol, mais la femme l'a déjà rejoint. » Elle le tient ferme par le bras et dit « Reste. Si tu ne veux pas démordre de ta lubie, c'est moi qui vais monter. Rappelle-toi les terribles quintes de tout de cette nuit. Mais pour une affaire, fût-elle imaginaire, tu oublies femme et enfant et tu sacrifies tes poumons. J'y vais. Alors énumère-lui toutes les qualités que nous avons en dépôt, je te crierai les prix à mesure. » « Bien, dit la femme, et elle monte dans la rue. Évidemment, elle me voit tout de suite. » « Madame la marchande de charbon, criai-je, mes hommages respectueux. Rien qu'une pelletée de charbon, je l'emporterai moi-même chez moi. Une pelletée de la dernière qualité, je la paierai bien sûr jusqu'au dernier centime, mais pas tout de suite, pas tout de suite. » Quel son de cloche que ces quatre mots « pas tout de suite » et comme ils brouillent leur sens en se mêlant aux sonneries du soir que le clocher voisin justement fait entendre. « Alors, que veut-il avoir ?» crie le marchand de charbon. « Rien !» crie la femme derrière elle. « Il n'y a rien. Je ne vois rien. Je n'entends rien. » si ce n'est que le coup de 6 heures et nous fermons. Le froid est énorme, nous aurons probablement beaucoup de travail encore demain. Elle ne voit rien et n'entend rien, mais pourtant elle dénoue la ceinture de son tablier et elle essaye de me chasser en l'agitant. Par malheur, elle y réussit. Mon seau à charbon a tous les avantages d'une bonne monture, mais il n'a pas de résistance. Il est trop léger. Un tablier de femme fait manquer le sol sous ses pattes. Mauvaise, je crie derrière moi, tandis qu'elle se tourne vers le magasin, et moitié par mépris, moitié par satisfaction, elle donne avec la main des coups dans l'air. Mauvaise, je te suppliais pour une pelletée de la dernière qualité, et tu ne me l'as pas donnée. Et sur ces mots, je m'élève dans les régions des montagnes de glace et je m'y perds pour n'en plus jamais revenir.
C'était le premier de 9 épisodes de la journée Kafka d'Isabelle Huel, Jacques Taroni et Jean Dave, diffusée pour la première fois sur France Culture le 17 septembre 1983. Téléchargement et réécoute sur le site de France Culture à la page des nuits et sur l'application Radio France.